Virasa Milana.
Le journal avec Jean-Baptiste Bideha.
Merci de rester à l'écoute de la radio Nzamba. Nous sommes le 14 novembre 2020. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française. À la présentation de ce journal, Jean-Baptiste Bileha, d'abord la charpente de cette édition. Grogne au sein des militaires burundais, récemment rentrés de la mission de maintien de la paix en Somalie. Ils viennent de passer plus de 10 mois sans percevoir leurs indemnités. Nous sommes dans la semaine dédiée aux combattants du CNDD-FDD, initié par le pouvoir de Gitega. Selon Charles Litigé, président du parti prenant non reconnu par le pouvoir, cette journée devrait être attribuée aux Burundais qui ont combattu avec Moïse Gisabo contre les Allemands et non les combattants du CNDD-FDD qui ont commis plusieurs actes de bavure. Bonsoir et bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Bonsoir. Les militaires récemment rentrés de la mission de maintien de la paix en Somalie à Missom disent avoir des difficultés financières. Ils viennent de passer plus de 10 mois sans rien recevoir comme indemnité. Certains recourent au crédit et découvert dans différentes institutions financières ou auprès communément appelées Banque Lambert. Bonfils Niongere pour plus de précisions.
Les militaires qui sont victimes de ce retard excessif de plus de 10 mois des indemnités à Missom sont ceux du 52e bataillon et 53e bataillon à Missom qui ont été récemment relevés du contingent burundais de la Missom en Somalie. Arrivés à Bujumbura au début de ce mois de décembre, ils ne trouvent rien sur leur compte alors qu'ils doivent prendre congé pour aller voir leurs familles respectives. Certains d'entre eux demandent des crédits ou des découvertes dans des banques et ou autres institutions financières, mais d'autres recourent aux emprunts de la Banque Lambert, communément appelé Kwimene Shamaso dans le jargon militaire. Un de ces militaires témoigne.
Aujourd'hui, nos familles vivent dans une misère sans nom. Nous sommes rentrés de la mission, mais nous ne savons plus à quel saint se vouer. Il y a ceux qui recourent au crédit appelé Banque Lambert. D'autres cherchent des emprunts pour trouver le ticket de pouvoir aller rendre visite à leur famille. Le gouvernement devrait penser à nous aussi pour que nous puissions vivre comme les autres. Sinon, ça devient de plus en plus grave.
Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Alain Tribel Mutabazi avait annoncé le décaissement de ses indemnités à Missom il y a quelques jours. Mais ces militaires indiquent qu'ils ont attendu longtemps, mais en vain.
Le ministre a annoncé que nos indemnités sont disponibles, mais nous avons longtemps attendu, mais en vain. Nous demandons qu'ils aient pitié de nous, puisque nous aussi, nous sommes des humains.
La rédaction de la radio Nzamba Gateka Kawi n'a pas encore eu la version du ministère de la Défense et des anciens combattants sur ce retard après la promesse du ministre, ni celle de l'armée en général via son porte-parole, le colonel Floribert Biereke.
Merci, bon fils Niongere. Le parti CNDD-FDD est en train de célébrer la semaine dédiée aux combattants dans tout le pays. Le parti CNDD de Léonard Nyangoma, dont est issu le parti CNDD-FDD, qui n'est pas à comprendre comment le CNDD-FDD s'approprie cette semaine du combattant, alors que ses membres ne sont pas les seuls combattants. Il dénonce des objectifs propagandistes du CNDD-FDD. Léonard Nyangoma déplore que l'objectif que le mouvement CNDD avait avant de prendre les armes n'est pas en train d'être respecté par le parti au pouvoir, celui de chercher le bien-être de tous les Burundais. Suivez Léonard Nyangoma.
C'est une fête du parti au pouvoir qui ne concerne que parce que il y a d'autres partis, il y a d'autres organisations. C'était une fête nationale, il y a d'autres organisations qui avaient créé aussi des branches armées pour la lutte. La lutte dite lutte pour la restauration de la démocratie. Donc, tout cela ne sont pas associés. C'est une occasion de propagande pour prouver, montrer que c'est le CNDD-FDD qui a été le seul à lutter pour cette cause noble de la démocratie, mais aussi pour maintenir le peuple dans l'obscurantisme. Mais pourtant, ils doivent savoir que le peuple est au courant, le peuple connaît la vérité, le peuple connaît qui ont initié vraiment cette lutte. En créant le CNDD, nous avons créé des outils des outils pour appuyer le mouvement, nous avons créé d'autres départements pour appuyer la lutte, notamment le département politique, le département social, le département de la communication. Et nous avons créé donc aussi les forces de défense de la démocratie, les FDD. Coller donc FDD sur le CNDD, c'est comme si, par comparaison, on collait donc les ex-FAB sur l'UPRONA et dire l'UPRONA-FAB. Pour le politique, c'est un instrument du militaire. Or, normalement, le militaire est un instrument de la politique et non le contraire. Et ils font le contraire.
Léonard Nyangoma, président du parti CNDD, pour Charlie Tigé, président du parti Pronan, reconnu par le pouvoir de Gitega, les combattants du CNDD-FDD ne devraient être appelés des combattants, d'autant plus qu'ils sont connus par plusieurs crimes commis avant que le CNDD-FDD n'arrive au pouvoir. La journée ou la semaine du combattant devrait être dédiée aux Burundais qui ont combattu avec Moïse Gisabo contre les Allemands envahisseurs lors de la lutte pour la souveraineté du Burundi, estime Charlie Tigé.
Combats ont-ils mené? Qu'a-t-il apporté de mieux, de positif pour le peuple burundais? Était-ce réellement un combat louable à célébrer lorsque, pendant presque 10 ans, on ne fait que tuer des innocents comme à Teza, à Bouta, quand on massacre des rescapés du génocide de 1993 comme à Bougindana et ailleurs? Est-ce réellement un combat louable quand on arrête des gens sur les routes qui sont dans des transports en commun? Et quoi, les massacres pendant les 10 ans qu'ils ont commis ces massacres, ces fameux combattants du CNDD-FDD n'ont pas réussi à prendre une colline, encore moins une commune du pays? Est-ce cela vraiment le combat qu'ils célèbrent? Et souvenez-vous qu'ils ont même accédé au pouvoir à travers les négociations après l'accord d'Arusha, quand ils ont signé l'accord global de cesser le feu en 2003. Ils devraient plutôt avoir honte et demander pardon au peuple burundais. On ne fait pas carnage, on ne fait pas le massacre des innocents, le massacre de ses frères, uniquement parce que vous n'avez pas la même ethnie ou que vous n'avez pas la même vision politique. Et pour moi, la journée du combattant ou la semaine du combattant devrait être commémorée en mémoire des Burundais qui ont combattu Rumaliza et surtout en mémoire des vaillants soldats Moïse Gisabo qu'on appelait Abadasigana qui ont payé en leur tribut en prenant des lances, des flèches pour combattre les Allemands, ce qu'on appelle la bataille d'Onago à Muramvya. C'était juste avant le traité de Kiganda. C'est cela le combat pour la souveraineté, le combat contre l'envahisseur étranger. C'est cela qui devrait être célébré. Le reste, c'est une farce, c'est une comédie de mauvais goût.
Attention, attention. La COVID-19 est un virus qui peut infecter tout le monde sans exception. Personnes âgées, adolescents, enfants et même les nourrissons. Mais qui sont les personnes les plus à risque? Les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques, telles que le diabète, l'asthme, le VIH-Sida ou une maladie cardiaque, semblent courir davantage de risques de développer des symptômes graves. Il est donc primordial pour ces personnes de se protéger en respectant les mesures barrières de prévention de la COVID-19, notamment en portant les masques chaque fois qu'elles sont en public, en se lavant régulièrement les mains et en évitant les déplacements moins nécessaires. Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Les personnes vivant avec handicap du camp des réfugiés de Mulongwe ont suivi une formation sur leur prise en charge comme des personnes normales. C'est l'association féminine AFPD qui l'a organisée ce vendredi. L'interpelle à tous ces personnes vivant avec handicap devrait dans les associations suivies en des organisateurs.
On les a dit qu'ils peuvent évoluer en association. Les associations peuvent les aider en les encadrant sur ce dont ils sont capables. Par exemple, ceux qui ont des problèmes des jambes peuvent être des tailleurs, des tisseurs et autres. Ils peuvent se débrouiller dans beaucoup de travaux. Et ceux qui n'ont pas de bras peuvent aussi faire beaucoup de choses. en utilisant leurs jambes. On les a montrés comment travailler en association, car personne ne peut vivre en attendant tous les autres. Le peu qu'ils gagnent peut aussi les rendre utiles.
La vie domaine des réfugiés burundais diabétiques est en calvaire, explique Jérôme Kazabukeye, réfugié burundais qui vit avec cette maladie. Selon lui, avec la pandémie du Covid, les prix des denrées des premières nécessités pour une alimentation équilibrée ont augmenté et demande aux bienfaiteurs de les venir en aide et aux assurer l'accès aux médicaments et aux soins de santé dans les hôpitaux proches aux malades pour éviter les déplacements qui coûtent cher.
Si une personne vivant avec le diabète n'est pas bonne actuellement, parce que nous avons des stress, surtout en rapport avec les moyens financiers qui minent le monde entier dû au Covid-19, les réfugiés que j'ai parlé avec sont porteurs de diabète mais n'ont pas aussi l'habitude de se dévoiler. Ils ont peur de dire qu'ils ont le diabète, ils ont peur de se faire diagnostiquer, ils ont peur de se regrouper ensemble, pour aider ensemble, j'ai vu. Donc, en général, la vie n'est pas aussi bonne par rapport aux autres qui n'ont pas cette maladie. Avec le Covid-19, on disait que c'est une pandémie qui cible les personnes à faible taux d'immunité, alors que nous sommes aussi des personnes qui n'ont pas aussi d'immunité. Nous avons eu peur, mais sur les réseaux sociaux, on a eu l'occasion d'échanger et de vaincre la peur. Il y a des mesures qui nous ont touchés. Quand on a pris les mesures de lutter contre le Covid-19, les prix des produits fruitiers, des légumes ont monté. Nous avons un problème de trouver l'alimentation équilibrée d'un diabétique. L'autre qui a touché les réfugiés diabétiques, ce sont la limitation des loisirs et des sports. Donc, on est enfermé en confinement. Nombreux ont des développer cette maladie, je pense. Je profiterai de cette occasion de demander au HCR de bien vouloir dépister un grand nombre de réfugiés.
Ce dimanche à 15h au stade Nouari, le Burundi a l'obligation de gagner pour espérer une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Devant son public, les Irlandais ont la chance de gagner, mais s'ils perdent, les matchs de l'an prochain n'ont aucune importance. C'est l'analyse de notre confrère Désiré Tungiman.
Après la troisième journée, le Maroc est en tête avec 7 points, suivi de la Mauritanie avec 5 points. La Centrafrique vient en troisième position avec 3 points et le Burundi ferme la marche avec 1 point. Cela montre que si le Burundi ne gagne pas le match de ce dimanche qui se joue au stade Intwari, les Intambamurugamba perdront toutes les chances de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Cameroun. Parce que si on regarde ce classement provisoire. Si la Mauritanie gagne au Burundi, cette équipe totalisera 8 points. Et si le Burundi gagne les deux matchs de mars contre la Centrafrique et le Maroc, le total des points ne dépassera pas 7 points pour dire que aucune chance de se qualifier. Mais si on se réfère au match aller à Nouakchott, il n'y a rien à envier à cette équipe des Mourabitoun. Parce que le Burundi s'est très très bien comporté, il aurait mérité même la victoire, mais le résultat nul, décroché à l'étranger, permet encore d'espérer. Mais cet espoir disparaîtra si le Burundi perd le match de ce dimanche. Les joueurs de Jimmy Ndayizeye ne devraient pas avoir peur de cette équipe de la Mauritanie. C'est pas pour la première fois que la Mauritanie vient au Burundi. Souvenez-vous que le 18 janvier 2014, l'équipe de la Mauritanie est venue au Burundi et elle a perdu sur un score de 3-2. À cette époque, l'équipe n'était pas forte comme celle d'aujourd'hui, qui contient plus de 3/4 des professionnels qui sont habitués aux grands rendez-vous, à la pression. D'ailleurs, les joueurs de Jimmy Ndayizeye ont la chance d'évoluer devant son public, même s'il s'agira de 5000 personnes parce que c'est le quota accepté par la CAF, vu la capacité du stade Intwari, mais c'est pas rien pour encourager cette équipe. Donc, le Burundi a une obligation de gagner ce dimanche, sinon, aucune chance de se qualifier.
Merci Désiré Tungimana. Dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous focalisons sur les constructions anarchiques au bord du lac Tanganyika. Le mini-magazine vous est présenté par Mini Basumba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idjouya Onyagihougou, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Les mesures draconiennes prises par le gouvernement burundais en septembre dernier n'ont pas empêché certains habitants de Bujumbura de continuer de construire des maisons aux alentours du lac Tanganyika en violation de la distance de 150 mètres prévue par la loi. Qu'est-ce qui manque pour faire respecter la loi autour de ces propriétés dans lesquelles la permission de construire est souvent octroyée par le même gouvernement? C'est l'une des questions que le mini-magazine au cœur de la société de ce 14 novembre 2020 va tenter de répondre. Émile Nivasumba, je suis à la présentation. Bienvenue. Les activités de destruction des clôtures dans le domaine public hydraulique sur le littoral du lac Tanganyika n'ont pas été faites par les propriétaires des parcelles alors qu'elles devraient avoir été achevées le 21 octobre dernier selon le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Certaines constructions sont d'ailleurs en cours sur ce littoral comme nous le rapporte Thierry Wigrindavi de la télévision Renaissance.
Le premier constat, quand on approche le lac Tanganyika du côté de la zone Kinindo, au quartier appelé communément Kibengarurari, au sud de la capitale, ce sont des maisons en construction tout au long de la bordure du lac. Plusieurs villas sont en érection, certaines même à moins de 20 mètres du lac. Les maçons et aides-maçons rencontrés sur place ignorent même qu'il y a une mesure du ministère ayant l'environnement dans ses attributions, suspendant toutes les activités dans le domaine public hydraulique du littoral du lac Tanganyika. Ils nous ont indiqué qu'ils ne reçoivent que les ordres de leur employeur. Par contre, on peut voir que sur ces chantiers, les travaux de construction semblent être suspendus parce que déjà inondés par les eaux du lac. Il y a même certains milieux de soutènement qui commencent à s'effondrer. Il est pratiquement impossible, par exemple, de reconnaître qu'il y avait une route qui menait au bar la Costa Beach. Il n'y a que de l'eau stagnante. Mais tout autour, on y voit des boutiques et mini-bars installés d'une façon anarchique et tout près du lac. De l'autre côté, au quartier Kabondo, les chantiers en cours sur le littoral du lac Tanganyika sont nombreux. À une distance de moins de 100 mètres des rives du lac, des bars-restaurants, des églises vacarent leurs activités quotidiennes. À Safi Beach, commune Mukaza, à proximité du port de Bujumbura et de la gare routière, des équipements de jet d'enfants, des kiosques de produits Braroudi sont là et tout près du lac Tanganyika. En Gagara, à l'endroit appelé Kumase, des maisonnettes, des restaurants portines sont toujours à moins de 100 mètres du lac. La situation est ainsi, alors que le code de l'eau est on ne peut plus clair. L'article 5, alinéa 3, stipule que font partie du domaine public hydraulique les bords du lac Tanganyika sur une largeur de 150 mètres. Selon les articles 10 et 110 du même code, ce domaine public hydraulique est inaliénable, imprescriptible et insaisissable.
C'est cette loi sur laquelle le ministère de l'Environnement revient dans son communiqué du 21 septembre dernier, un communiqué qui interdit toute activité de construction en violation de la loi ou sans autorisation tout près du lac Tanganyika. Une délégation de son ministère a même mis des signes sur des propriétés qui n'avaient pas respecté la loi au niveau de la ville de Bujumbura. Dans la ville de Rumonge, ces signes en forme de croix n'ont pas été tracés sur les maisons, mais toutes les activités de construction tout le long du lac Tanganyika ont cessé. Selon l'environnementaliste Mamer Savushimike, les lois ne sont pas respectées sur ce littoral à cause des intérêts de certaines hautes autorités du pays.
Ces décisions ne sont pas les premières fois à être prises. Je pense notamment, depuis 2012, après la promulgation du code de l'eau, plusieurs décisions venant du ministère de l'Environnement ont été décidées, mais la mise en application n'a jamais été effective. Nous nous posons la question de savoir pourquoi cette mise en application n'est pas du tout effective. C'est parce que ces attributions ont été données à des cadres de l'État. à des cadres de la police, à des cadres de l'armée, à des cadres des institutions de l'État du Burundi. À cela, alors, personne n'ose leur intimer l'ordre de démolir ou de quitter ces endroits. Si ces personnes ne quittent pas ces endroits, ils vont avoir des conséquences néfastes au niveau environnemental et au niveau social. Et ces conséquences se sont déjà manifestées dernièrement. Ce sont ces inondations qui ont fait que certains hôtels de ces endroits ne fonctionnent plus. Et c'est une perte pour les propriétaires. Quand les inondations montent, il y a ces fosses septiques qui sont détruites. Et les déchets humains provenant des toilettes polluent fortement la biodiversité du lac Tanganyika, particulièrement la pollution des eaux du lac Tanganyika qui sont consommées à 80% par la population de la ville de Bujumbura.
L'intervention de Mamère Savushimike a été recueillie par Bertrand Gendakurio de la radio Inzamba. Et c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société qui était centré sur le non-respect de la loi lors des constructions des maisons aux alentours du lac Tanganyika. À la présentation de ce mini-magazine, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.
C'était l'émission au cœur de la société.
C'est le moment de suivre la revue de presse de ce samedi présentée par François Bizimana. Bonne réception.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous êtes, bienvenue à la revue de la presse. Reprise des vols commerciaux à l'aéroport international Melchior Ndadaye, écrit Iwachu. Comme annoncé par le comité chargé de lutter contre la propagation et la contamination de la COVID-19 au Burundi, à l'issue de sa visite effectuée à l'aéroport international Melchior Ndadaye, des vols ont repris ce lundi 9 novembre 2020. Le premier avion s'est posé sur le tarmac dans la même matinée de ce lundi et c'était un appareil de Kenya Airways avec à son bord 50 passagers, dont les Burundais, obligés de rester à l'étranger suite à la suspension des vols pour endiguer la propagation de la COVID-19. Selon Emmanuel Habimana, directeur général de l'autorité de l'aviation civile du Burundi, tout a été aménagé pour répondre aux mesures de prévention contre cette pandémie et pour s'ajuster aux normes reconnues par l'aviation internationale en protégeant le voyageur et personnel de l'aéroport. Les journalistes indésirables lors de la visite des biens à vendre aux enchères, titre Net Presse. En début de cette semaine, il a été organisé une visite dans les enceintes du ministère de la Justice et Garde des Sceaux pour ceux qui veulent acheter aux enchères les biens des détenus accusés d'avoir tenté de renverser les institutions en 2015. Selon un communiqué émanant de ce ministère, la vente aux enchères de ces biens vise à les protéger d'une éventuelle détérioration et pour qu'ils servent d'intérêt au pays. L'on saura que la presse n'a pas été autorisée à se rendre sur place pour voir le déroulement de cette procédure. Une chose a été remarquée, il y avait beaucoup de monde lors de l'exposition des biens de l'ONG Maison Shalom, dirigée par Marguerite Baranguité, dite Magui. Ceux qui étaient sur place ont senti que la plupart de ceux qui étaient là étaient des curieux car une opinion très persistante a demandé aux Burundais de ne pas acheter ces biens, rappela que ceux qui ont acheté des biens en 1972 viennent de les rendre presque un demi-siècle plus tard. Le Burundi officiellement réintégré auprès de l'OIF, écrit le journal Africa News. Le pays était sous le coup de sanctions, entrées en vigueur en 2016, un an après le début d'une violente crise sociopolitique et humanitaire, née de la volonté de l'ex-président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Cette crise avait fait, jusqu'en 2017, plus d'un millier de victimes et poussé plus de 400 000 Burundais à l'exil. L'élection d'un nouveau président de la République en mai dernier semble avoir encouragé l'OIF à revoir sa position. L'organisation qui déplorer une dégradation de la situation sécuritaire et politique au Burundi a donc opté pour une réintégration de son pays dans ses instances. Les représentants des partis politiques sont appelés à engager leurs militants sur la voie du développement, écrit ABP Info. Le responsable du forum des partis politiques, Monsieur Félicien Nkengu-Burundi, a recommandé aux représentants des formations politiques de s'approcher de leurs militants pour les orienter sur la voie de développement. Il a livré ses propos à la presse à l'issue des activités d'un atelier organisé à l'attention des 10 représentants en vue d'échanger sur 2 thématiques, en l'occurrence, image des politiques burundais à l'égard de la population burundaise et augmentation de la production comme moteur du développement durable. Pour M. Nkengu-Burundi, les politiques burundais devraient focaliser plus d'attention sur les questions de paix et sécurité parce qu'elles ont déjà trouvé des solutions. Ainsi prend fin cette revue de la presse. Au revoir.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Au revoir.